Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Après cette année 2020, rythmée à la crise sanitaire, après ce début d'année 2021 qui s'annonce haut en couleur, on a du mal à s'imaginer un futur dans lequel on a envie de vivre. On a du mal à imaginer quelque chose de chatoyant. On se demande quand est-ce que ces crises vont s'arrêter? Et justement, aujourd'hui, je reçois Daniel Kaplan, qui est, entre autres, le fondateur de l'Université de la Pluralité, qui est un projet de réseau mondial consacré aux imaginaires du futur. Il a été, avant ça, le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le numérique de manière générale, et donc désormais, il s'intéresse aux imaginaires. Et avec Daniel, on parle de beaucoup de choses, c'est pour ça que la conversation est un peu longue. On parle d'abord des crises que l'on traverse, des multicrises que l'on va traverser, mais en réalité, pour comprendre que ce ne sont pas simplement des crises. Et puis, évidemment, comment envisager de les traverser, comment envisager notre vie aujourd'hui, comment envisager un futur dans lequel on se projette et voir si c'est possible, hein, tous, toutes ensemble. C'est une conversation qui est longue et évidemment hyper intéressante, enfin je trouve en tout cas, c'est pour ça que j'avais du mal à m'arrêter. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
On va parler aujourd'hui de crise systémique. On va parler de la manière dont on est en train d'évoluer, mais on va aussi parler du futur. J'aimerais comprendre pour vous, donc là on est tout début 2021, comment vous avez vécu cette année 2020 et cette crise sanitaire?
D'abord, tout en travaillant sur le futur, je l'ai vécu comme tout le monde, hein, donc comme malgré tout un événement non anticipé, inattendu, inattendu y compris dans sa longueur, c'est-à-dire que l'idée du cloisonnement du tiers de l'humanité, c'était déjà une idée surprenante, aussi soudaine, l'idée que un an plus tard, ça continue vraisemblablement. On est une autre, en tout cas. Après, pour être honnête, c'est une année... Ça s'est avéré être une bonne année pour le travail que je faisais, pour le développement du réseau Université de la Pluralité, alors qu'il est tellement petit qu'il pouvait difficilement souffrir d'une crise, puisqu'il n'y avait pas d'acquis. Mais en fait, on s'est... Tout en ayant, comme tout le monde, marre des visioconférences, on s'est quand même amusé à inventer toutes sortes de formats. On a fait des ateliers de collecte de morceaux d'imaginaire, on a fait des ateliers d'écriture passionnants avec des écrivains, des écrivaines de science-fiction et des gens qui n'en avaient pas du tout l'expérience dans le cadre de projets. On a inventé une formule de publication faite de briquet de broc avec des contributions venues du monde entier. Donc, bon, c'est pas pour ça qu'on a envie que ça dure. Et puis après, c'est aussi une année dont j'avais lu des bouts dans pas mal de romans de science-fiction. J'en ai plus forcément les titres ici. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si... des choses se traduisaient dans des morceaux de fiction se traduisaient dans la réalité. Ça m'intéresse en fait pas du tout de savoir si la fiction a prévu quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que peut-être, du coup, ça a aidé à être un tout petit peu plus armé pour se dire, bon, ben, voilà, c'est un élément de contexte. Travaillons dans ce contexte-là.
Il y a Utopia, entre autres, qui a été porté au nu, en tout cas aux États-Unis, donc un livre de science-fiction qui a été écrit il y a une trentaine d'années, je crois, de mémoire, et qui décrit globalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui y sont retournés cette année, enfin l'année dernière, du coup, à cette lecture. C'est vrai que la science-fiction, c'est toujours intéressant parce que c'est des récits. Pour vous, moi j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, qu'on va vivre pas mal de crises parallèles, en tout cas que cette crise sanitaire va générer une crise économique, une crise sociale, qu'on va avoir une crise politique l'année prochaine. On parle et on voit la montée du Bitcoin, entre autres, sans doute une crise financière, et évidemment, par-dessus tout ça, une crise écologique. Et puis aussi une crise paradigmatique, donc une crise des croyances, parce que justement, les gens sont en manque de récits, en particulier dans un monde où on parle d'écologie, on parle beaucoup d'écologie punitive, et les gens ne savent plus très bien justement à quel récit se vouer, si on peut dire ça comme ça. Comment vous voyez les choses sur les années à venir, décennies à venir sans doute ?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, donc il faudra peut-être qu'on l'épelle petit à petit. Pour revenir d'abord à cette question de crise, ce qu'on voit un peu se travailler un peu partout, c'est l'idée que ça n'est pas une crise au sens, en tout cas, où il y aurait une situation normale, sans crise, à laquelle revenir. C'est pas pour ça que c'est seulement une conjonction de crise, c'est peut-être autre chose. Ce que peut-être Timothy Norton appellerait un méta-objet, c'est-à-dire un objet qui est tellement gros que d'essayer de l'appréhender avec les notions un peu précise, cette idée de crise, même quand on dit « non, mais la crise, c'est aussi une métamorphose », tout ça pour dédramatiser. Le changement climatique, c'est pas une crise, c'est une transformation des conditions mêmes de la vie. Ça s'appelle pas une crise, c'est autre chose. Une crise financière, ça peut s'appeler une crise. Et donc, ce qu'on voit pas mal émerger, c'est effectivement l'idée que, à horizon visible, il n'y a vraisemblablement pas de période sans crise, de période de non-crise. De non-crise au sens, en tout cas, où on est aux prises avec des phénomènes qui ne sont pas tous anticipables et qui tous cassent les mécanismes de la vie économique ou sociale normale, enfin considérée auparavant comme normale. Donc, qu'on ne sortira pas de la crise, qu'il faut s'habituer à être dans une période de bouleversement, de questionnement, d'incertitude structurelle. Il y a même un institut des temps post-normaux qui s'est créé autour de cette idée-là qu'il y a justement plus de normalité vers laquelle se tourner, et qu'on est dans une période qui, comme aucune période n'est éternelle, mais qui est au moins durablement complexe, chaotique, contradictoire, c'est les différents C autour desquels il travaille, et qu'il faut apprendre à travailler dans cette réalité, que c'est pas du tout le même... qu'on ne fait pas ni des affaires, ni des politiques publiques de la même manière dans un monde de ce type-là dans un monde plus déterministe dans lequel, voilà, quand il y a une crise, c'est une période, elle a un début et il y a une sortie du tunnel, elle est, même si la sortie est plus longue que prévu. La deuxième chose qui, effectivement, et sur laquelle, par exemple, les assureurs travaillent, c'est l'idée que cette période-là, en plus, est marquée par le fait que, du coup, une crise n'arrive jamais seule, ou rarement seule, soit parce qu'elles sont toutes connectées. Si le changement climatique s'accélère et ses conséquences se font ressentir de plus en plus vivement. Évidemment, ça a des conséquences sur la vie économique, donc sur les finances, mais ça a aussi des conséquences sur l'esprit public. Et moi, pour moi, d'une certaine manière, beaucoup de des crispations aujourd'hui identitaires ou sociales sont aussi liées au fait que petit à petit, la question climatique commence à mordre pour de vrai, et que du coup, il commence à y avoir des tentatives politiques pour essayer de dire bon, bah, il faudrait quand même qu'on bouge un peu plus, et que du coup, ça déstabilise beaucoup plus encore à la fois les situations acquises, mais aussi la manière dont les gens pouvaient se percevoir ou percevoir leurs perspectives. Ça peut créer clairement aussi des inégalités. S'il y a des gens pour lesquels c'est plus facile de concevoir des changements que pour d'autres, y compris parce qu'il y a plus de latitude, il y a plus de marge. Et donc, une bonne partie des tensions politiques d'aujourd'hui sont en fait déjà des tensions liées au changement climatique. Mais on n'a rien vu. Et que ça va être très difficile. Donc, d'une part, elles sont connectées. Mais d'autre part, si on est dans un monde de crise permanente, c'est aussi parce que...